La fille de la 13 janvier 1983, rue mon père Philippe.
Vous nous avez dit que l'inspiration ne provient pas de l'expérience, pas directement. Mais pour qu'il y ait une inspiration, ne faut-il pas avoir eu déjà l'expérience ? Je comprends. Autrement dit, l'inspiration ne présuppose-t-elle pas des expériences antérieures ? Oui, mais elle ne provient pas directement. Je ne peux pas expliquer l'inspiration par l'expérience, c'est ça qu'il faut comprendre. L'expérience est le milieu dans lequel nous vivons. L'artiste vit l'expérience. Un artiste est très attentif au milieu dans lequel il est. Et donc, il profite des expériences plus que n'importe qui d'autre. Il a ses yeux ouverts, il regarde tout, il voit tout, il saisit immédiatement s'il y a du désordre, s'il n'y a pas quelque chose qui ne va pas. Il a une sensibilité d'artiste dans le domaine dans lequel il est artiste. Hein. Voyager avec un peintre, vous voyez ça tout de suite. Voyager avec un sculpteur, vous voyez immédiatement. Il y a des tas de choses que vous ne voyez pas, vous ne sentez pas, vous ne faites pas attention. Quand vous voyagez avec une ménagère qui est habituée à la cuisine, elle s'intéresse tout de suite s'il y a telle ou telle chose qui sont bonnes. Il y a l'expérience qui éveille dans ce domaine-là. Mais l'inspiration ne provient pas directement de l'expérience. C'est ça que je voulais dire. Vous voyez, il y a, entre les deux, il y a quelque chose. Il y a des gens d'expérience qui n'ont aucune inspiration. Ils collent, on a envie de les faire un peu décoller, un peu de temps en temps. Mais bon, ils font 36 tours de piste, ils n'arrivent jamais à décoller. Ils ont une expérience énorme, une information énorme. Mais pas un pouce d'inspiration. Ça ne décolle pas. C'est deux choses très différentes. Et c'est ça, je crois qu'il faut bien saisir. Hein. L'expérience artistique, c'est quand même quelque chose de très beau, c'est l'homme de goût. Avoir du goût, c'est l'expérience. Alors on peut voir les choses. Hein. C'est un homme qui peut, quand il déguste du bon vin, vous dire exactement le cru, l'année, c'est l'expérience qui fait ça, c'est pas l'inspiration. C'est l'expérience. Alors, c'est le goût. Pourra détecter immédiatement ce meuble et tel, il vient, cette madone, elle provient de tel endroit, voyez, et de quelle année, elle est de quelle école, tout ça, c'est d'ordre de l'expérience. L'érudition, l'expérience, la connaissance. Mais ce n'est pas nécessairement quelqu'un qui aura beaucoup d'inspiration. Alors, l'inspiration est au-delà de l'expérience. L'inspiration provient d'une source qui n'est pas l'expérience. Et c'est pour ça que je vous disais la dernière fois, elle provient de cette source de l'intelligence liée à l'imaginaire. Très mystérieux, c'est lié à l'imaginaire. Et à un imaginaire particulier. Hein. L'imaginaire, parce que l'imaginaire, vous comprenez bien, si nous sommes des gens de vision, nous avons une imagination visuelle. Si nous sommes des artistes du côté auditif, nous avons une imagination auditive. Nous avons une imagination pour les odeurs, pour les gens qui sont très forts quant à l'odeur, pour le parfum. C'est très amusant. Alors, je me souviens d'avoir fait une fois de l'autostop avec quelqu'un qui était dans une très grosse maison, une des plus grandes maisons de parfum de France, et qui était celui qui avait comme poste, d'inventer de nouveaux parfums. Et c'était très intéressant, ce qu'il m'a raconté. Le voyage s'est passé très rapidement. C'est extrêmement intéressant de voir la manière dont il essayait de saisir comment, il m'avait dit, de la descente, une fois qu'il avait descendu un soir, dans tel endroit où il avait été pris par une espèce d'odeur extraordinaire, c'était l'été, et là, il a essayé de reprendre, vous voyez, ça l'avait inspiré, l'expérience avec d'autres. Alors, ordinairement, l'inspiration, c'est deux types d'expériences tout à fait différents, d'où jaillit une étincelle. Quelque chose de nouveau, un nouveau rapport, une nouvelle relation. Et au fond, c'était comme ça. Alors, il y avait le technicien et en même temps, il y avait l'artiste, hein, parce qu'il y avait l'artiste qui savait savait bien sentir, et puis en même temps, le bonhomme qui sait comment réaliser ça. Oui, la réalisation artistique, c'était très, très intéressant. Vous voyez exactement l'expérience, l'inspiration, et puis le travail, comment le réaliser. Vous voyez, c'est ce qu'on trouve immédiatement dès qu'on est en face d'un artiste. Alors, dans ce domaine-là, c'est peut-être plus facile que dans la peinture, vous voyez. C'est plus artisanal. Il faut être beaucoup plus proche de l'expérience que dans la peinture, où il y a quelque chose qui peut se... aller beaucoup plus loin, ou comme dans la musique, c'est quelque chose qui va aller plus loin. Que pensez-vous de ce faire, de ce procédé des écrivains et des artistes surréalistes, qui s'était donné pour but d'exprimer le fonctionnement réel de la pensée en s'abandonnant eux-mêmes, sans aucun contrôle, ni préoccupation esthétique ou morale, aux impulsions de leur vie intérieure? Dans la mesure où les points de vue logiques, éthiques, artistiques et voire même métaphysiques sont bannis, et dans lequel seule l'inspiration du sujet ne subsiste, que pensez-vous de cette façon de faire, ou peut-on encore humainement l'accepter, puisque rien de véritablement concret ne peut plus être saisi? Concret. Je dirais pas nécessairement concret. Je sais très bien, ça c'est tout le point de vue de l'art surréaliste, aussi d'une certaine manière de l'art abstrait. C'est très curieux de voir ça. Alors là, on est en face de la subjectivité absolue. Une aspiration poussée jusqu'à l'extrême. On trouve ça déjà chez Valéry. Quand on étudie, j'ai beaucoup étudié Valéry pour la question de la philosophie de l'art, parce que Valéry a l'avantage, je ne dis pas qu'on est toujours d'accord, mais c'est un avantage quelquefois Valéry, c'est que c'est un matheux, c'est un poète, et puis c'est un homme qui sait analyser parfaitement, qui analyse admirablement. Eh bien, on voit très bien que chez lui, il y a ce souci d'arriver à saisir ce que représente le point de vue de l'inspiration. Et au fond, on est du côté subjectif. L'inspiration, ce que je vous disais la dernière fois, n'est-ce pas ? Parce que je crois que là, on touche vraiment ce qui caractérise l'inspiration comme connaissance. Dans l'inspiration, la subjectivité est première. Ça, ça ne peut pas nier. Ce n'est pas l'objectivité, c'est pour ça que je ne dirais pas concret, je dirais une forme idéale. C'est le possible qui apparaît en premier lieu. C'est en ce sens-là qu'il y a une parenté entre l'intuition mathématique et l'inspiration. Et ça, Valéry l'a très très bien senti et très bien saisi. Quand vous voyez l'intuition décrite par Henri Poincaré, l'intuition mathématique, et quand vous regardez l'inspiration telle que Valéry le donne, mais c'est très parallèle. Il y a quelque chose de plus objectif du côté mathématique, c'est sûr, mais c'est quand même le point de vue du sujet qui fait la synthèse. La synthèse n'est pas du tout du côté objectif. Et donc, du côté inspiration, c'est un peu la même chose. C'est que c'est le sujet qui se donne à lui-même son objet. C'est le poète inspiré qui se donne à lui-même son objet. Alors, évidemment, ça présuppose des quantités d'expérience objective. Mais l'inspiration elle-même n'est pas objective. Je ne crois pas qu'on puisse dire que l'inspiration est objective. Elle a un fondement objectif, comme les mathématiques. Elle a un fondement objectif, et ce fondement objectif, heureusement qu'il existe, puisque autrement ce serait irréalisable. Alors de fait, cette inspiration donne une forme qui va être réalisable. Donc il y a un fondement objectif. On retombe sur ses pieds, n'est-ce pas, dans l'œuvre qu'on va réaliser. Et alors à ce moment-là, ça deviendra objectif. On fait de l'objectif, si j'ose dire. Vous voyez, on fabrique l'objectif par l'inspiration et par le point de vue de l'art. Mais je crois que c'est ce qui caractérise l'inspiration, c'est que c'est premièrement une connaissance qui vient du sujet. Subjectivité transcendantale. Et ça, je crois que c'est très intéressant à voir, et c'est très intéressant de voir que l'imagination conduit à cela, et que la pointe la plus importante chez Kant, c'est quand même la critique de la connaissance esthétique. Et c'est là où on trouve le rôle de l'imagination, et c'est là où on découvre comment on est en présence d'une subjectivité transcendantale. Par l'imaginaire lié à l'intelligence, on peut découvrir le primat du sujet, qui se donne à lui-même son objet. L'inspiration se donne à lui-même. L'inspiré se donne à lui-même son objet. Cet objet, c'est une réalité possible. Mais vous ne direz jamais que vous êtes inspiré si vous, tout simplement, vous faites un décalque de la réalité que vous voyez. C'est pas l'inspiration, ça. Oui. Qui ? Ah non, elle dépend pas de nous. Elle dépend de nous. C'est-à-dire que nous ne pouvons pas appuyer sur un bouton pour la voir quand nous voulons. Mais elle vient de nous. Et donc, de ce point de vue-là, elle dépend de nous. Vous voyez ? Elle vient de nous. Et c'est ce qui fait comprendre comment vont essayer de retrouver des états d'inspiration. Ce serait ça le point de vue du surréalisme. On se met dans un état d'inspiration en essayant de prendre de la drogue, de prendre, vous voyez, tout ce qui pourra nous faire décoller, quoi. D'une façon ou d'une autre. Alors à ce moment-là, on se met dans un état qui est tout proche de l'inspiration. Mais ce n'est pas l'inspiration. Il n'y a pas de technique de l'inspiration. Et on voudrait avoir une technique d'inspiration. Alors, je crois qu'il n'y a pas de technique de l'inspiration. L'inspiration provient de nous, nous ne la commandons pas. Mais elle provient de nous, mais nous ne la commandons pas. Elle nous est tombée. Et c'est pour ça qu'on dira que l'inspiration vient des dieux, des muses. Quand on dit ça, c'est la cause efficiente, parce que justement, on n'a pas une mainmise sur l'inspiration. On ne peut pas dire, moi, je veux aujourd'hui être inspiré. Il y avait un professeur comme ça au Solfoir qui faisait des cours que quand il était inspiré. Alors vous voyez, c'était commode. Il y avait des jours où il n'était pas en état de grâce et donc il n'était pas inspiré. Et c'est vrai, on doit faire des cours même quand on n'est pas inspiré, ce qui n'est pas agréable du tout. Parce que faire un cours, normalement, implique une certaine œuvre d'art. Mais il y a un point de vue objectif, il y a la matière qu'on doit donner. Alors là, à ce moment-là, très bien. L'information, tout ça, le texte, donc c'est que ça nous aide. Mais autrement, il y a une certaine œuvre d'art dans un cours. C'est forcé, il y a une communication artistique. Alors, si on est inspiré, c'est des petits pains chauds. Si c'est pas inspiré, c'est du pain rassis. Vous avez su. Oui, le vieux professeur, qui donne toujours le même cours depuis 30 ans, nous avions le père Eris comme ça, il avait... Et alors, au milieu du cours, il s'aperçait, « Ah, je me suis trompé, parce que j'ai corrigé ça. » Alors, il reprenait des pages, c'était 20 pages après, où c'était la correction, vous voyez, la rétractation. Mais il y avait une demi-heure du cours qui avait existé avant qu'il s'en rappelle. C'est un petit peu ennuyeux, ça. C'est un petit peu ennuyeux. Il était pris lui-même au piège. Parce qu'il reprenait des choses. Alors, tout d'un coup, il s'est dit, non, j'enseigne pas ça. C'est vrai. Alors, il s'est rappelé que, de fait, en effet, ça avait été, il y avait un changement. On comprend que l'inspiration ne provient pas. Nous n'appuyons pas sur le bouton pour être inspirés quand nous voulons être inspirés, c'est sûr. Nous nous mettons dans un état de disposition vis-à-vis de l'inspiration, ça c'est vrai. Et l'inspiration vient, elle vous tombe dessus. Alors vous êtes plus ou moins inspirés, c'est très vrai ça, vous êtes plus ou moins inspirés. Il y a quelquefois des choses qui s'imposent de manière très nette. On a comme une intuition, on se dit c'est ça et ce côté-là qu'il faut aller. On devine. Oui. Alors c'est pour ça que je dis que l'inspiration, pour moi, personnellement, si je veux l'analyser au point de vue philosophique, hein, parce que dire qu'elle vient des muses, c'est donner sa langue au chat. Étant donné que les muses sont analogues à ça, n'est-ce pas? Alors, donc, dire que ça vient des muses, c'est dire qu'on ne sait pas, c'est tout, on ne sait pas. Très bien, on peut dire ça, mais on doit philosophiquement analyser ce que c'est que l'inspiration. On doit l'analyser parce qu'il y a eu un type de connaissance qui est l'inspiration. Et c'est très important pour nous, puisque nous parlons au plan théologique de l'inspiration, Il est donc nécessaire de comprendre ce que c'est que l'inspiration au niveau philosophique pour pouvoir développer une théologie de l'inspiration. Je ne peux pas développer une théologie de l'inspiration si je ne sais absolument pas ce que c'est que l'inspiration au plan philosophique. Oui. Et c'est pour ça que ça m'intéresse, moi. Et il faut bien reconnaître que dans la scolastique, chercher un manuel thomiste, chercher inspiration. Oui, vous le verrez peut-être dans les critiques qu'on fera par rapport à la connaissance. Mais vous ne verrez pas un traité sur l'inspiration. Et ça, c'est très dommage. Alors, parce qu'il n'y a pas de traité sur l'inspiration, l'inspiration est laissée tomber, c'est tout. Alors, c'est les idéalistes qui, de fait, ont développé ce que c'était que l'inspiration. Oui. Hein, les états d'âme, ça dépend lesquels. Les états d'âme au plan affectif. Au plan affectif. Sûrement que ça fait partie de cette attitude de réceptivité par rapport à l'inspiration. Si vous êtes trop tendu, si vous êtes de mauvaise humeur contre vous et contre les autres, hein, vous n'êtes pas dans un état de réceptivité. C'est ce que Rilke souligne ça. Et là, il a raison. Il a raison, c'est un autre aspect. Vous voyez, Valérie ne donne pas du tout ces effets-là. C'est ça qui est intéressant, ce serait intéressant. Alors là, vous voyez, il faudrait pousser un peu. Mais c'est intéressant, s'il y en avait qui s'intéressaient à ça, c'est de relever tout ce que les poètes ont pu dire sur l'inspiration. Faire un fichier sur l'inspiration. Tout ce que les poètes, tout ce que les philosophes. Alors là, c'est beaucoup plus court. C'est beaucoup plus court. Tout ce que les théologiens ont pu dire sur l'inspiration. Mais moi, ça me frappe beaucoup, c'est de voir qu'il y a un traité de l'inspiration chez saint Thomas. Il y a le traité des prophètes, sur les prophètes. Saint Thomas traite de l'inspiration, parce que l'inspiration prophétique, c'est quand même quelque chose, c'est un charisme d'être prophète. Et donc, l'inspiration joue, et saint Thomas souligne que pour être un bon prophète, il faut avoir une bonne intelligence. C'est ce que Dieu réclame du prophète. Une bonne intelligence, il dit une bonne intelligence plus qu'une bonne imagination, c'est très curieux. Nous, on croirait qu'il faut avoir une imagination extraordinaire, pas du tout, une bonne intelligence. Dieu demande au prophète d'avoir, il se sert de l'intelligence du prophète pour aller plus loin. Oui. Oui, ça c'est évident, c'est la différence. Elle est reçue. Pourquoi voilà? Il est source de l'inspiration. Au point de vue humain, c'est pas. Alors vous mettriez que tous les artistes sont des prophètes. Non. Non, non, pas du tout. Il y a des artistes, il y a des prophètes divins qui reçoivent l'inspiration de Dieu. Et ils le savent. Tandis que quand vous voyez un artiste, vous croyez qu'il sait que son inspiration est de Dieu ? Ce que j'ai essayé de vous expliquer la dernière fois. L'artiste lui-même. Par son intelligence et son imagination. Voilà, nous avons essayé d'analyser qu'est-ce que c'est que la connaissance inspirée. Nous avons vu que ça regardait le possible et que le possible comme tel. Et nous avons essayé de voir d'où sort l'inspiration. Et je vous ai dit, on ne peut pas dire que c'est les muses. On ne peut pas dire que c'est les filles, les soleils, les nymphes, comme dit Hésiode. On ne peut pas dire ça, ou comme dit Claudel. On ne peut pas dire ça. On ne peut pas dire que l'inspiration provient des muses. Parce que les muses, est-ce que ça existe? Bon, on ne peut pas dire qu'elle vient directement de Dieu. À ce moment-là, vous définiriez l'inspiration par l'inspiration divine. Il y a une inspiration poétique qui reste au niveau humain. Et le poète, comme poète, est source de son œuvre. Il n'est pas instrument de Dieu. Il est source de son œuvre. Et il le sait. Et alors, c'est là où je cherche d'où vient cette cause, cette source de son inspiration. Je disais, l'intelligence liée à l'imaginaire. l'imagination créatrice de Bergson. L'imagination créatrice de Bergson montre comment, dans le domaine de l'imaginaire, les possibles peuvent venir. Je prends l'imaginaire au très grand sens. On verra le traité de l'imagination quand on sera à l'imagination en philosophie du vivant, et on verra que l'imagination, c'est quelque chose de très grand. Mais ça reste sensible. Et l'intelligence liée à l'imaginaire vous donne toutes ces possibilités de réalisation. Vous voyez ? Donc c'est l'intelligence liée à l'imaginaire, et donc c'est bien l'artiste lui-même qui est source de son inspiration. Mais il est source de son inspiration d'une manière telle qu'il n'en est pas le maître. Alors, à ce point de vue-là, c'est très vrai que du fait même qu'il n'en est pas lui maître, il a toujours l'inspiration, il a toujours un peu l'impression, c'est ce qu'ils diront comme expression, d'être dans un état de grâce ou pas état de grâce. C'est-à-dire, subitement, ils sont pris par ça, ils découvrent ça, mais ils s'y préparent. Un artiste qui doit réaliser quelque chose se prépare à ça, il travaille. Il ne va pas dire « j'attends l'inspiration ». Et puis il va se mettre à fumer « j'attends l'inspiration ». Non, non, pas du tout. Il travaillera, il fera des ébauches, il prendra des informations. Il y a tout le domaine de ça qui se fait la main. Et puis, tout d'un coup, mystérieusement, ça vient ou ça vient pas. Création, dans quel sens? La création vient après. On en parle après. Je ne parle pas. L'inspiration n'est pas une création. L'inspiration, c'est une intuition, une sorte de révélation. C'est un domaine nouveau où il y a quelque chose d'inédit qui apparaît. Et l'inspiration a une fécondité qui fait qu'à partir de l'inspiration, il y aura un choix créateur. Philosophiquement, j'aime bien de dire choix créateur. La création est au niveau du choix. Elle n'est pas au niveau de l'inspiration. Oui. Au sens fort. Il y a une certaine spontanéité. C'est très vrai dans l'inspiration. Ça jaillit. Oui. Mais ce n'est pas une création. Parce que la création, elle est du côté de l'œuvre. Je reste là dans un domaine, si vous voulez, de choses spontanées qui m'est donnée. Ça m'est donné, c'est très vrai, on dira, ça m'est donné gratuitement, c'est très vrai, ça m'est donné gratuitement. Et l'artiste, je dira, ça m'est donné gratuitement. Une inspiration, c'est toujours un peu gratuite. On s'y prépare, c'est donné un peu gratuitement. C'est donné gratuitement parce que justement, il y a comme une coupure entre les expériences qu'on avait avant, le travail qu'on faisait avant, et puis subitement, quelque chose qu'on découvre. Oui. Donc, il y a là un domaine nouveau, où on est source. Source jaillissante. Et ce domaine où on est source jaillissante, c'est de, ce domaine donc de l'intelligence liée à l'imaginaire, l'intelligence liée à l'affectivité. Alors là, vous avez l'état affectif. Vous voyez ? C'est lié à l'affectivité, c'est évident. Mais ce n'est pas l'affectivité qui domine dans l'inspiration, c'est la connaissance. C'est pour ça que j'aime beaucoup ce lieu où saint Thomas nous dit que chez le prophète, c'est l'intelligence qui domine. C'est pas l'affectivité. C'est la connaissance. Il peut y avoir des prophètes qui sont des prophètes et qui n'ont pas un amour extraordinaire. Ça va pas de pair avec leur amour. Pas toujours, de temps en temps, oui. Mais de temps en temps, surtout quand il s'agit alors, des prophètes de l'Ancien Testament ou des prophètes divins, là, finalement, il y a quand même un lien avec le point de vue de l'amour. Mais pas nécessairement et pas directement. C'est de l'ordre de l'intelligence. Et c'est ça qui m'intéresse, vous voyez. Je ne connais parfaitement l'intelligence humaine que lorsque j'ai découvert ce domaine propre de l'intelligence humaine qui est source d'inspiration, source de nouvelles connaissances, qui est l'inspiration. Et vous voyez, la scolastique a tendu, ça on peut bien voir, la scolastique décadente, surtout à partir de Occam, n'est-ce pas ? On a regardé le nous uniquement. Saint Thomas voit intellectus et ratio. Toujours la division que fait Saint Thomas. C'est une division très importante. Alors on a la logique qui est de ce côté-là. La logique vient perfectionner la ratio, parce que l'intellectus est au-delà de la logique. Alors, on comprend comment, à partir de Occam, l'intellectus va être inhibé dans la ratio, puisque c'est la logique qui prend tout. Alors on a une intelligence qui est purement rationnelle. Mais saint Thomas va développer l'intelligence affective. On ne parle pas beaucoup de la raison affective. Une logique affective, hein. C'est assez curieux. Mais la raison, les raisonnements ne sont pas affectifs, ils sont logiques. Tandis que l'intelligence peut être affective. Et c'est saint Thomas parlera par exemple d'une perception affective. Une perception affective, c'est l'intelligence qui va s'affiner grâce à l'amour, et grâce à l'amour, l'intelligence va pouvoir pénétrer plus avant. Alors vous avez une perception, la perception affective, une intelligence qui pénètre plus avant, une espèce d'intuition affective, vous avez des intuitions affectives, ça c'est sûr. Des intuitions affectives qui peuvent aller très loin du reste. En raison d'un amour qu'on a pour quelqu'un, on ressent si la personne tombe malade, si la personne est en même temps à un accident, si la personne est assassinée, on le reçoit un choc. Oui, ça c'est des perceptions affectives, très très mystérieuses, qui peuvent être même prophétiques d'une certaine manière. Alors, vous avez donc tout ce domaine de l'intelligence affective, d'une intelligence affective qui est l'intelligence qui nous vient en pleine naturalité vis-à-vis de celui que nous aimons. Donc ça c'est l'intelligence affective. Vous pouvez avoir aussi une intelligence qui va se développer grâce à l'imagination. Saint Thomas n'a pas beaucoup développé ça. Alors on aurait l'intelligence mathématique et on aurait l'intelligence poétique. Quand je dis poétique après mathématique, ça ne veut pas dire que le poète est nécessairement inférieur au mathématicien, n'est-ce pas ? Mais c'est simplement parce qu'il y a deux développements. Je n'aimerais pas non plus vous faire. C'est deux développements différents. Mais c'est l'intelligence liée à l'imagination. L'imagination a de fait des demeures multiples. C'est ça qu'on a beaucoup de peine. Nous pensons tout de suite à l'imagination romantique, du clair de lune, n'est-ce pas ? Alors ça ne va pas du tout. C'est une sorte d'imagination, c'est évident. C'est une imagination cosmique, celle-là. Vous voyez ? Alors elle a quelque chose de particulier. Elle est liée à la lune, au clair de lune. Tandis qu'il a l'imagination mathématique, l'imagination poétique. Ce sont des formes d'imagination. Et l'intelligence est présente dans cette imagination-là. Donc, il y a des développements de l'intelligence dans des sens différents. Vous voyez, si je regarde uniquement l'intelligence, l'appréhension et le jugement, on peut faire ça. L'intelligence appréhensive et judicative, le jugement. C'est intéressant de voir ces deux développements. Vous voyez ce matin en cours, hein. L'intelligence appréhensive et l'intelligence judicative. L'intelligence qui juge et l'intelligence qui appréhende. Oui, très bien. Est-ce que cette distinction-là va se retrouver dans l'intelligence affective, dans l'intelligence mathématique, dans l'intelligence poétique ? C'est une très grave question. Et c'est intéressant de se poser la question. Parce que l'intellect pratique et spéculatif, oui, l'intelligence de nous, il est d'ordre spéculatif, il est d'ordre pratique. Bon, le nous spéculatif, c'est pas la même division. Diviser l'intelligence en l'intelligence appréhensive et l'intelligence judicative, c'est une division de l'intelligence, très vrai. Je divise l'intelligence spéculative et pratique. Spéculative, c'est la philosophie première, au sommet. Pratique, c'est l'intelligence affective qui va aboutir à une intelligence prudentielle, et l'intelligence poétique. Et puis entre le pratique et le spéculatif, les mathématiques. Elles tendent plutôt vers le spéculatif, mais pas entièrement. C'est ça qui est très curieux dans le domaine mathématique. C'est entre deux. Alors, vous avez donc des divisions d'intelligence. Vous voyez que si vous étudiez l'intelligence sans jamais regarder l'inspiration, il y a quelque chose du domaine de l'intelligence que vous oubliez. Il y a une dimension de l'intelligence que vous ne regardez pas. Parce que l'intelligence se développe du côté affectif, du côté prudentiel, du côté poétique. Il y a une intelligence, on pourrait dire, technique aussi. Vous voyez, exactement comme la connaissance affective va se développer du côté prudentiel, l'intelligence poétique, l'inspiration, pourra devenir technique en second lieu. C'est l'inspiration qui se réalise à travers le travail. C'est l'inspiration qui se sert de méthode. Oui ?
Par rapport aux vertus
intellectuelles. Ah, mais ça, c'est ici. C'est dans l'ordre de l'amitié. Dans l'ordre de l'amitié, il y a la connaissance affective. Et dans la connaissance affective, il va se développer ensuite le point de vue prudentiel, ça on verra. Vous voyez ? Oui, la technique est analogue, c'est pour ça que je le dis ici. C'est analogue à la prudence. Oui, c'est analogue à la prudence, c'est la technique. Alors, tandis que la connaissance, l'inspiration poétique, donc c'est une connaissance pratique, c'est donc un développement particulier du nous. Alors, ce qui serait très intéressant, c'est de voir si appréhension et jugement se retrouvent dans tous ces domaines-là. Ou si inspiration et jugement ne se retrouvent qu'au niveau spéculatif et pas au niveau pratique. Mais je pose des questions, c'est pour que vous puissiez aller plus loin. Non, parce qu'il faut se poser ces questions pour aller tout. Ça, c'est très intéressant. C'est quand on voit, vous voyez, deux divisions. Une division d'intelligence appréhensive et judicative, une division d'intelligence spéculative et pratique. Alors, comment jouent ces divisions? Est-ce que ces divisions sont au niveau de l'intelligence spéculative ou est-ce que appréhension et jugement est au niveau. Est-ce que ces divisions sont au niveau de l'intelligence spéculative ou est-ce que appréhension et jugement est au niveau du de l'intelligence avant la division spéculative et pratique? Le cours de ce soir, je peux le dire tout de suite, puisque voir la foi, est-ce que la foi s'enracine dans le spéculatif, est-ce que la foi s'enracine dans le pratique, est-ce que la foi s'enracine dans l'affectif, est-ce que la foi s'enracine dans le poétique, ou est-ce que la foi s'enracine dans le nous, avant toutes ces divisions. Oui. Alors elle s'enracine dans l'intelligence avant toutes ces divisions. Donc dans l'intelligence, dans ce qu'elle est de plus profond. Et c'est pour ça que la foi pourra éclairer toutes ces parties. Et vous pourrez avoir une inspiration chrétienne. Mais si la foi n'éclairait que la connaissance spéculative, vous n'auriez jamais une inspiration chrétienne. Tandis qu'il peut y avoir une inspiration chrétienne. Et c'est ce qui donnera le caractère particulier de l'art chrétien. L'art chrétien n'est pas du côté de la technique. Après tout, il n'y a pas de technique chrétienne. Tandis qu'il y a une inspiration chrétienne. Et l'inspiration chrétienne va donner justement une possibilité d'avoir quelque chose de particulier qui se retrouvera dans l'œuvre. Mais c'est pour ça que c'est toujours très important, quand on voit ces divisions, d'essayer de comprendre à quel niveau se trouvent ces divisions. Ça, c'est toute la critique. À quel niveau se trouve la divisions? Alors, vous voyez, ce que nous essayons de comprendre, c'est de comprendre l'inspiration s'enracine dans l'intelligence, dans une intelligence pratique, liée à l'imaginaire. Et quand je dis une intelligence pratique, il y a le côté affectif, parce qu'autrement il n'y aurait pas de pratique, c'est pas l'intelligence spéculative. L'intelligence spéculative n'a pas d'inspiration. L'intelligence spéculative n'a pas d'inspiration. Pourquoi? Parce que l'intelligence spéculative, elle est réceptive à l'égard de la res. De la réalité, c'est la réalité qu'on regarde. Et donc elle n'est pas inspirée. Alors, mettez maintenant, pour ceux qui s'intéressent à la pensée de Maritain, n'est-ce pas ? Maritain dira qu'il y a une connaissance poétique antérieure à la connaissance spéculative. Pour lui, la connaissance poétique est au niveau de la foi. Ce que nous disons de la foi, il le dit de la connaissance poétique. C'est-à-dire que la connaissance poétique, elle est au niveau du nous, dans ce qu'il a de plus profond. Donc antérieure à la division spéculative et pratique. Et c'est pour ça qu'il dira qu'il y a une connaissance poétique, donc une inspiration,
poétique qui va donner un esprit particulier à la métaphysique qui est antérieur à la connaissance métaphysique et qui donc va plus loin que la connaissance métaphysique. C'est très curieux. Alors ça, c'est pas du tout Saint Thomas. C'est quelque chose de tout à fait différent. C'est du maritain. Je crois que c'est du raïssa. Je crois que c'est plus raïssa qu'un maritain. Elle a été tellement prise par son point de vue de l'inspiration poétique qu'elle a considéré que l'inspiration poétique était plus que tout. Et on comprend, quand on n'a pas fait beaucoup de métaphysique, et que l'inspiration poétique vous prend et vous saisit, et qu'on regarde la métaphysique un peu ramenée à la logique, la métaphysique décadente. Alors on se dit, mais c'est bien plus supérieur, je suis tout à fait d'accord. Si la métaphysique était ce que dit Occam, une logique, alors c'est très vrai que l'inspiration poétique nous fait comprendre le réel plus profondément que la logique. Ça c'est sûr. Et c'est, je crois, ça qui fait comprendre cette position. Où on n'a pas repensé la philosophie première dans sa dignité propre de philosophie première, alors on met cette inspiration poétique avant. Et si vous avez ce petit chaîne, vous pouvez très facilement comprendre. L'inspiration poétique, alors elle se situe au niveau du nous, dans ce que le nous a de plus lui-même. Ce que nous disons pour la foi, il le dit pour l'inspiration poétique. Comme si, justement, l'intelligence, par l'inspiration poétique, pouvait se développer d'une manière tout à fait particulière et d'une manière antérieure à la philosophie première ou à la philosophie ou à la connaissance affective. Bon. Oui.
Comment est-ce qu'on place son intuition de l'américain? Où est-ce qu'il la place par rapport à l'inspiration?
Elle est dans l'inspiration poétique. L'inspiration poétique. Elle me donne l'intuition de l'être. Il n'y a pas d'intuition de l'être sans inspiration poétique. Ça, c'est sûr. C'est pour ça qu'il dit que saint Thomas a une intuition de l'être qu'Aristote n'a pas eu. Et c'est là où il dit que saint Thomas a été plus loin qu'Aristote parce qu'il a eu cette intuition de l'être et qu'il a eu cette inspiration poétique qu'Aristote n'a pas eu. Aristote est resté à un niveau logique. Vous voyez ? Et donc, à un niveau logique, les trois degrés d'abstraction, où il comprend qu'il y a quelque chose, et alors il n'a pas eu cela. Il n'a pas eu cette vision particulière. Bon, alors je continue, pour terminer sur l'inspiration. Il faut essayer de comprendre comment l'inspiration, ce que je disais la dernière fois, n'est-ce pas, que l'inspiration, donc, regarde le possible, et le possible, c'est le fruit de cette intelligence liée à l'imaginaire. Mais l'intelligence dans l'imaginaire, vous voyez, on ne fait plus de distinction, c'est l'intelligence liée à l'imaginaire, l'intelligence pratique, parce que c'est le possible, c'est quelque chose que je peux réaliser. Ce n'est pas l'intelligence spéculative, c'est bien évident. C'est autre chose, c'est un autre domaine. C'est ce deux domaines différents. Mais c'est un domaine qui a ce privilège, et c'est là où Maritain a compris quelque chose, mais l'a mal exprimé, comme très souvent, il l'a mal analysé, mais il a compris quelque chose. La connaissance d'inspiration poétique est plus humaine que la connaissance spéculative. Alors ça, oui. Mais c'est pas parce qu'elle est plus humaine qu'elle va plus loin dans l'ordre de l'être. Non. Aristote dit que la philosophie première est quasi-divine, que la philosophie première n'est pas entièrement humaine. Et on comprend très bien pourquoi, parce qu'elle permet à l'homme de se dépasser. Donc elle n'est pas entièrement humaine. Elle est faite pour le dépassement de l'homme. Tandis que l'inspiration poétique n'est pas du tout un dépassement de l'homme. C'est l'homme qui recrée son univers et qui se donne à lui-même son univers. Mais c'est pour l'homme et pour la gloire de l'homme. Et tandis que lorsqu'il s'agit de la connaissance spéculative poussée à l'extrême dans la philosophie première, on est en face de quelque chose qui dépasse l'homme. Ça, c'est très vrai. La métaphysique n'est pas humaine. Pour ça, on est toujours en dessous. Mais c'est pas étonnant. Tant qu'on n'a pas l'habitus métaphysique, ça nous dépasse toujours. Tandis que l'inspiration, moi, ça va très bien. On est dans son domaine. On comprend très bien ça. La philosophie de l'art, on comprend, c'est notre domaine. La philosophie affective, c'est notre domaine. C'est pour ça qu'il faut commencer par là. Il ne faut pas faire comme les scolastiques, connaissances spéculatives, puis on applique les connaissances affectives, connaissances spéculatives comme des choses inférieures. Non, sous un aspect, elles sont premières. Génétiquement, elles sont premières. Et donc, sous un aspect, génétiquement, elles sont premières. Selon l'ordre génétique, elles sont premières. C'est très vrai que l'intelligence commence à vivre par l'inspiration. C'est pour ça que je crois qu'on peut dire, on essaiera de le comprendre, ça, parce que c'est intéressant à voir. On peut vous dire que cette connaissance inspirée, donc ce qu'on appelle l'inspiration, cette connaissance inspirée, qui est subjective, mais qui a une objectivité, il ne faut pas dire du tout qu'il n'y a pas d'objectivité, puisqu'elle regarde le possible. Cette connaissance va être une connaissance symbolique. Et on vient de comprendre ce que ça veut dire. C'est une connaissance symbolique. La connaissance symbolique, elle est première génétiquement. L'homme commence par penser symboliquement. Regardez un gosse. Il pense toujours symboliquement. Il faudra bien comprendre ce que ça veut dire. Parce que ça, c'est très intéressant. Bien saisir ce que ça veut dire. La connaissance symbolique, elle est première. Et d'une certaine manière, elle est dernière. Elle est première génétiquement. Alors je dirais à Maritain, attention, elle est première non pas selon l'ordre de nature, mais génétiquement. Ça c'est vrai. Je commence, quand je commence à être intelligent, je commence à être un poète. On a tous été des petits poètes. On n'a pas cultivé, parce qu'on était en classe après, puis en classe on a supprimé ça. Ça veut bien dire qu'on va en classe immédiatement, on se fait taper sur les doigts, si on est un peu poète. Mais qu'est-ce que tu as toujours dans la lune? Ben oui, tu es dans la lune, oui. J'ai dans la lune poétique. N'est-ce pas? Alors on vous rappelle qu'il faut, non, il faut apprendre la grammaire, il faut apprendre la logique, il faut avoir tout ça. Alors vous faites tomber toute la capacité poétique qui est en vous. Tout le monde le sait, dès qu'on commence les cours, les classes, immédiatement, toute l'imagination poétique disparaît. Ça dégringole. Alors, si on a un instinct poétique suffisamment fort, ça se maintient. Parce qu'on se dit que ces maîtres sont des imbéciles, ils ne sont pas des poètes. Et ils n'ont rien compris. Mais il faut avoir l'instinct poétique suffisamment fort pour dépasser ce que représente le point de vue des programmes, qui sont toujours au niveau logique, des programmes qui mettent tout le monde à la même sauce. Pas tout le monde est mis, on doit tous apprendre les mêmes choses et ainsi de suite. Alors, notre intelligence, notre inspiration poétique disparaît. Et on devient des logiciens. Alors, la connaissance, nous essayons de comprendre, elle est première symboliquement, ça c'est sûr. Et elle est d'une certaine manière dernière, mais elle n'est pas première selon l'ordre de nature. Et là, nous le verrons quand nous essaierons de voir quel est le fruit de cette connaissance, de cette inspiration, quel est le fruit de comprendre que nous sommes en présence d'une connaissance symbolique. Je le dis tout de suite pour que vous compreniez bien ce que je veux dire quand je parle du possible. Le possible est de l'ordre du symbole. Ça, c'est sûr. Le symbole n'implique pas en premier lieu le point de vue de la connaissance du jugement d'existence. Pas du tout. La connaissance symbolique, c'est une connaissance du possible. C'est ça qui est si charmant, c'est merveilleux. C'est un monde nouveau. Alors on dira, mais ça n'existe pas. Ça n'a aucune espèce d'importance. C'est symbolique. C'est merveilleux. C'est reposant. Tandis que la réalité, c'est triste, c'est terrible, c'est dur. Là, on est dans un domaine du symbole. C'est merveilleux de vivre un peu dans le symbole. Tu vois? Parce qu'à ce moment-là, c'est pas fatigant, vous comprenez. Et c'est vrai, c'est fatigant de travailler le symbole. Ça, c'est très vrai. Le poète aura sa fatigue. Mais c'est reposant d'être dans un monde qui n'est pas le monde bête, logique, n'est-ce pas, qui nous assomme, tandis que là, au moins, on décolle un peu. Alors, connaissance symbolique, elle est première. Elle est première, cette connaissance. Génétiquement, elle est première. Et ça, je crois qu'il faut recommander. C'est ce que les scolastiques n'ont plus vu du tout. Ils n'ont plus vu du tout. Alors, voyez, ne voyant plus le point de départ de cette connaissance symbolique, il y a des tas de choses qu'on ne comprend plus. Parce que l'ordre génétique est intéressant de voir qu'on commence par la connaissance symbolique. La connaissance symbolique est première. C'est la connaissance artistique qui est première. C'est un fait dans toutes les cultures. Cette connaissance est très liée de fait, très souvent, avec le point de vue religieux. Et c'est là où apparaîtra le point de vue du mythe. Le mythe regarde l'homme religieux, c'est-à-dire l'homme dans son origine et dans sa fin. C'est l'homme religieux, ça. Tandis que le symbole, il devient religieux dans le mythe, mais le symbole peut très bien ne pas être religieux. Parce que l'homme n'est pas uniquement religieux. Il y a autre chose aussi en lui, hein. Mais il est religieux. Et c'est très curieux de voir ça. C'est très intéressant. Et alors, on revient beaucoup à ça aujourd'hui. Et on a raison de revenir à ça. Parce que c'est important de voir que la connaissance symbolique et la connaissance religieuse, elle implique le mythe. Elle implique la connaissance symbolique. Elle implique, je veux dire, la connaissance, oui, artistique, poétique et religieuse et symbolique. Et elle va s'exprimer à travers le mythe.
Bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres.